Page 10 et 11, dans la rubrique Toujours France, Combat social, un article de Jacques Cheminade, président de Solidarité et Progrès, intitulé Psychotropes, champignons magiques, JP Morgan et CIA. Avec en introduction, entre le 2 et le 7-8 août, le quotidien Le Monde vient de vouer 12 pleines pages à, je cite, la poursuite du champignon magique, où il commente les aventures mycologiques du banquier Robert Gordon Wasson, 1898-1986. À partir de là, bien que sous une forme confuse et répétitive, il n'en expose pas moins les liens entre la consommation d'hallucinogènes et de psychotropes, la banque JP Morgan, Aldous Huxley, le psychiatre Humphrey Osmond et Timothy Leary, le beau monde new-yorkais du Century Club, et les aventuriers du psychédélisme de la vénérable Harvard University, les communautés spirituelles de la Silicon Valley, les laboratoires pharmaceutiques suisses et américains, et l'utilisation de la mescaline, de la psilocybine et du LSD par la CIA à des fins de manipulation mentale individuelle et collective. Extrait. Aurélien Otonet, l'auteur de la série, qualifie, entre guillemets, d'élucubration toute tentative éventuelle d'en tirer des conséquences politiques, tout en fournissant le matériel permettant d'y parvenir. C'est pourquoi nous le remercions de son travail et conseillons vivement de lire ces 12 pages sans préjugés ni a priori, en se faisant une idée par soi-même. Nous ne retiendrons ici que deux points fondamentaux. Le premier, le plus connu, est le projet Artichaut de la CIA, pour, je cite, « améliorer les techniques d'interrogatoire », intégré dès 1953 dans le programme LK-Ultra, visant au contrôle des consciences. La direction en a été confiée à Sidney Gottlieb, le sorcier noir ou empoisonneur en chef, qui a eu recours, dès 1953, à l'acide lysergique diéthylamide, le fameux LSD, découvert en 1943 par le chimiste suisse Albert Hoffmann, salarié des laboratoires Sandoz à Bâle. Gottlieb mobilisa 185 chercheurs et multiplia les expérimentations de LSD et de psilocybine sur des adolescents et des détenus noirs. Le second point concerne la recherche du champignon magique par les époux Wasson. Ils le découvriront lors d'un voyage au Mexique en juin 1955, où la « chamane », entre guillemets, Maria Sabina, les initiera au Enticito. Des échantillons seront transmis en France et étudiés par le mycologue Roger Haim, qui à son tour les fera parvenir à Albert Hoffmann. Après le LSD, celui-ci isolera le principe actif du psilocybe mexicana, la fameuse psilocybine. Et ici, nos deux points se rencontrent encore. MKUltra comprenait un sous-projet 58 concernant l'usage du champignon magique. Nouveau chapitre, opération séduction. Le plus important ici, par-delà les aventures des Wasson qui intéressent le monde, est l'usage politique qui est fait de ces psychotropes. Ce que décrit Aurélien Otonet est proprement hallucinant. Dès 1957, le magazine Life d'Henri Luce, un proche d'Allen Dulles, directeur de la CIA et criminel en costume de ville notoire, offre à Wasson de publier son récit. L'article paraît le 13 mai 1957 sur une quinzaine de pages titrées, je le cite, « La quête du champignon magique ». Il tombe entre les mains de Timothy Leary, le propagateur du LSD, qui organise alors un camp de vacances psychédéliques à Cuernavaca, au Mexique, où, dès les étés 62 et 63, de jeunes hippies chevelus se précipitent. On touche ici à l'essentiel. Nous sommes alors dans les années de la guerre du Vietnam. Et la jeunesse américaine, marquée par les campagnes de Martin Luther King et d'Eugene McCarthy, aurait pu constituer une force politique se mobilisant contre le système de l'oligarchie financière. C'est alors qu'hallucinogènes et psychotropes lui sont offerts. à ce rite de passage que lui infligent les adultes, la guerre, la jeunesse, découragée, se voit ouvrir les portes de la perception du trip psychédélique. Le LSD s'impose, Lucy in the Sky with Diamonds, et les champignons magiques occupent une place de choix dans le folklore hippie, performance avec Mick Jagger en 1970 par exemple. Cela évoluera par-delà les drogues elles-mêmes, vers ce qu'on pourrait appeler l'état d'addiction de masse, entre guillemets. L'état d'addiction de masse actuel, au sein duquel la possession virtuelle d'images se substitue à la production réelle de biens tangibles et où le capital lui-même devient fictif. Politique. Un certain Al Hubbard, Captain Trips, indicateur des services de renseignement et millionnaire, devient propagateur de drogue. Le journaliste américain Michael Pollan, spécialiste de ces substances, entre guillemets, confie, je cite, « On estime qu'il a fait découvrir le LSD à 6000 personnes entre 1951 et 1966. » Fin de citation. Mieux encore, le laboratoire qui mise aujourd'hui le plus activement sur la psilocybine, Compass Pathways, a pour principal actionnaire Peter Thiel, cofondateur de PayPal, étoile de la Silicon Valley, suprémaciste blanc et proche de Donald Trump. Les démocrates, entre guillemets, californiens sont eux loin d'être en reste dans leur adhésion à un New Age sustainable, entre guillemets. Michael Pollan, encore, je le cite, « Je connais deux géants des nouvelles technologies qui proposent des psychédéliques à leur cadre pour souder les équipes. » Fin de citation. Arrivé à ce point, on comprend pourquoi on entend maintenant proclamer que la guerre à la drogue serait condamnée à l'échec et qu'il faut vivre avec, entre explosion quasi cérémoniale du Burning Man en Californie ou de la Hellfest chez nous, et addiction quotidienne aux perceptions d'images dans tous les domaines infligés, entre guillemets, pour distraire. La vérité est que la guerre à la drogue n'a jamais été sérieusement menée et que la répression, si elle peut toucher les consommateurs de base, s'arrête dès que le sommet de la société est concerné, permettant l'ubérisation organisée et peu réprimée de la distribution dans nos villes. Ce qui vient d'être exposé par Le Monde a depuis longtemps été dénoncé par Lyndon LaRouche et ses amis américains, qui ont, dès les années 60, rejeté les produits dérivés psychédéliques et se sont engagés en politique, comme nous-mêmes en France. Point final. Donc en illustration à cet article, une photo de nos publications « Guerre à la drogue par le passé » avec en légende, déjà en 1980, puis en 1983, notre publication « Guerre à la drogue » dénonçait MKUltra, la destruction d'une génération et la vidéomanie en drogue dure. Ensuite en exergue la phrase suivante, « Le plus important est ici » et l'usage politique qui est fait de ces psychotropes. Avec une autre petite exergue, en savoir plus, en faire plus, sur son site jacquescheminade.fr, avec le lien à la totalité de l'article, sur le site jacquescheminade.fr. En page 11, un deuxième article, « Cannabis, drogue de synthèse, écran, une dictature sans larmes ?» point d'interrogation. Écrit par Christine Bier, rédactrice en chef de Nouvelle Solidarité. Nous l'avions dit, en 1980, Guerre à la drogue, association créée par les pionniers de Solidarité et Progrès, s'était battue contre l'utilisation de la drogue et des écrans par l'oligarchie anglo-américaine pour réduire les populations en esclavage. En 2012 et 2017, alors candidat à la présidentielle, Jacques Cheminade avait dénoncé les pires dérives liées aux jeux vidéo violents. 40 ans après, Le Monde et l'Obs nous donnent raison. En 1961, Aldous Huxley, l'auteur britannique qui a participé au programme MKUltra, dénoncé ci-contre, déclarait à la California Medical School de San Francisco, je cite, « Il y aura dès la prochaine génération une méthode pharmaceutique pour faire aimer aux gens leur propre servitude et créer une dictature sans larmes, de sorte que les gens se verront privés de leur liberté, mais en ressentiront plutôt du plaisir. » Fin de citation. Un scénario au triste succès qui donne à la France même des airs de championne. nos jeunes de 16 ans sont les premiers consommateurs de cannabis d'Europe. Notre pays compte 3,9 millions d'usagers, dont 1,2 million réguliers. Quant à la cocaïne, elle concernerait, selon le ministère de l'Intérieur, 250 000 consommateurs à des degrés variables. Et alors qu'aux États-Unis, les opiacés de synthèse, tels que le fentanyl, ont tué plus de 70 000 personnes par surdose en 2021, la consommation de ces produits, imitation chimique des drogues traditionnelles conditionnées pour donner des effets entre guillemets surpuissants, est en forte augmentation. Vendus sur la toile, ils sont très accessibles et leur puissance accrue augmente les risques de surdose et d'addiction. Nouveau chapitre, accro aux écrans. À cela s'ajoute désormais l'addiction aux écrans qui provoque des ravages chez les adolescents, mais aussi, à en croire un dossier publié par l'OPS le 28 juillet, chez les bébés. Outre les jeunes en dessous de 17 ans qui passent en moyenne 3 heures par jour devant les écrans, selon l'Union nationale des associations familiales, je cite, « Chaque jour, les moins de 2 ans regardent la télévision 1h24 en moyenne, utilisent 43 minutes un smartphone et 35 minutes une tablette tactile. » Fin de citation. En cause, l'idée que l'écran va « calmer » entre guillemets le petit. Une illusion, car si l'écran le scotche immédiatement, l'enfant plonge dans une passivité hypnotique où il s'emplit d'excitation boostée par les couleurs criardes et les mélodies entêtantes. Pire, plusieurs études pointent des retards dans le développement du langage, des difficultés dans la socialisation et la gestion des émotions, et une capacité de concentration réduite et moins d'habileté manuelle. Point final. Avec en illustration à cet article une photo d'une seringue et de tout un tas de pilules symbolisant les différentes drogues qui peuvent exister. En exergue, les gens se verront privés de leur liberté, mais en ressentiront plutôt du plaisir. Donc la citation d'Aldous Huxley. Et en bas de page, en savoir plus sur solidaritéetprogrès.fr, entretien, la légalisation du cannabis, un désastre annoncé. Voilà, c'est la fin des pages 10 et 11.